Quels sont les défis rencontrés par les jeunes et les familles de nos jours?
Par les professionnels qui les accompagnent.
Et les chercheurs qui soutiennent le développement des connaissances et des pratiques.
Comment ces défis nous amènent à revoir nos façons de faire et à innover pour le mieux-être des jeunes et de leurs familles?
Défi, dialogue sur l'enfance, la famille et l'intervention sociale, est un balado de vulgarisation scientifique portant sur les défis et enjeux d'actualité concernant les jeunes et les familles.
Les invités, une combinaison d'experts issus des milieux de recherche et d'intervention, mais aussi parfois des experts de leur situation, des jeunes et des familles.
Vous écoutez Défi, le balado du CRUGEF.
Réalisé et animé par Annie Vaillancourt, conseillère en développement de la recherche au CRUGEF,
en collaboration avec Julie Tremblay
et Vanessa Fournier.
L'épisode que vous écouterez aujourd'hui est le premier d'une série de trois portant sur les travaux de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Cette commission, communément appelée Commission Laurent, du nom de sa présidente, Mme Régine Laurent, a été mise sur pied le 30 avril 2019 à la suite du décès d'une fillette de 7 ans qui a été maltraitée dans son milieu familial à Granby. Cette tragédie a soulevé des inquiétudes majeures au sein de la population, notamment ce qui a trait au système de protection de la jeunesse, mais aussi au soutien offert aux jeunes et aux familles en situation de vulnérabilité. Les travaux de cette commission visaient alors, et encore au moment de cette rencontre, à entreprendre une réflexion en profondeur sur la protection de la jeunesse et la loi qui l'encadre, la loi sur la protection de la jeunesse, de même que sur le rôle des tribunaux, des services sociaux et des différents acteurs concernés. Cette série audio, intitulée « Défis et enjeux de protection », a été réalisée entre la diffusion des premiers constats de cette commission en novembre 2020 et le dépôt du rapport final au printemps 2021. Les premiers constats de cette commission révèlent, entre autres, l'importance d'agir tôt dans la vie des jeunes et des familles. Les invités que vous entendrez aujourd'hui poursuivent des travaux sur ce thème. Georges Taraboulsi, Thomas Sayas, Caroline White, Nadia Miquelon, bonjour.
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 Je vais d'abord vous laisser vous présenter.
Georges Taraboulsi, je suis directeur scientifique du Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles et aussi professeur de psychologie à l'École de psychologie de l'Université Laval à Québec.
Bonjour, moi c'est Thomas Sayas, je suis professeur de psychologie à l'Université du Québec à Montréal et je suis le directeur scientifique d'une OSBL française qui s'intéresse à la prévention précoce.
Bonjour, je suis Caroline White, je suis coordonnatrice des services spécifiques à la direction du programme Jeunesse et co-responsable du programme Élan Famille 2.0, Ensemble pour une parentalité bienveillante.
Nadia Miquelon, agente de planification, de programmation et de recherche, et aussi chargée de projet pour Élan Famille 2.0 et les services intégrés en périnatalité et petite enfance.
Merci. Avant de parler de vos différents travaux, pouvez-vous nous préciser en quelques mots ce qu'on entend par « agir tôt » dans la vie des enfants et des familles?
Agir tôt, ça veut dire vraiment dans la vie des enfants d'abord. On agit dès la conception. On souhaite que la grossesse se passe le plus harmonieusement possible pour la maman, que ce soit un moment fort, un moment positif, et que le fœtus, le bébé qui grandit en elle, soit favorisé de toutes les manières possibles. Agir tôt, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on souhaite que l'enfant naisse en santé. Après ça, c'est un soutien aux familles plus élargi. On souhaite agir tôt pour aider les familles à effectuer leur transition, devenir parent. C'est une des étapes importantes de la vie qui est remplie de défis de toutes sortes. Et ce qu'on souhaite, c'est soutenir les parents, avoir un regard bienveillant envers des familles qui doivent naviguer cette transition-là. Ça peut être du soutien, ça peut être de l'aide concrète, avec l'idée qu'une famille qui est bien soutenue, des parents qui vont mieux, peuvent avoir des enfants qui grandissent, qui se développent plus harmonieusement.
Et qui sont les enfants et les familles visés par les programmes de prévention et d'intervention en petite enfance?
C'est une grande question. Quelle intervention pour quelle personne? Comme disait Georges, on commence dans les 1000 premiers jours de vie, donc dans la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, et puis ça se poursuit après les programmes de prévention. On va s'intéresser tantôt à l'ensemble de la population en fournissant de la formation et du soutien à l'ensemble de la population. On appelle ça la prévention universelle. On peut aussi décider d'agir auprès de personnes qui présentent des facteurs dits de risque, donc des personnes qui ont certaines caractéristiques sur lesquelles les interventions vont plus précisément se centrer. On appelle ça la prévention orientée, où on peut agir auprès de personnes qui ont déjà des enjeux avec lesquels ils doivent composer. On appelle ça la prévention ciblée. Et ces trois niveaux de prévention définissent habituellement les caractéristiques d'une politique intégrée en prévention. Donc, les personnes qui sont ciblées par ces programmes-là vont être souvent à risque de dépression, à risque d'avoir des comportements maltraitants ou d'abus ou des comportements de négligence, c'est-à-dire de ne pas subvenir aux besoins fondamentaux des enfants. Les programmes vont avoir un spectre différent et puis ils vont essayer de s'ajuster à la population à laquelle ils pensent qu'ils peuvent le mieux répondre.
Les caractéristiques qui ont lieu tôt dans la vie des enfants, les enjeux développementaux qu'on voit tôt dans leur vie, souvent se répercutent dans le développement. C'est une question qui est importante. C'est quelque chose qui ressort vraiment des dernières 30 années de recherche où on a suivi des cohortes d'enfants. On a pu voir que les enfants qui vivent des situations plus difficiles très tôt dans leur vie peuvent avoir des séquelles. Ce n'est pas toujours le cas, puis il ne faut pas alarmer les gens en disant ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des marqueurs. Il y a des espèces de lumières qui apparaissent sur le tableau de bord qui devraient nous indiquer qu'il pourrait y avoir des enjeux. Et dans ce sens-là, c'est important de pouvoir agir tôt, d'offrir aux parents le soutien dont ils ont besoin pour avoir une parentalité plus positive auprès de leurs enfants.
Quand on parle de séquelles, on réfère à quoi, par exemple?
Il y a différentes sortes d'enjeux. Il y a plusieurs travaux qui ont montré, par exemple, que les enfants qu'on ne stimulait pas de manière appropriée en début de vie, pouvaient avoir des enjeux développementaux sur le plan intellectuel. Des enfants qui sont négligés d'une manière importante durant le début de vie peuvent avoir des difficultés sur le plan du développement du langage, le développement social, peuvent être plus agressifs en grandissant, plus oppositionnels. C'est la même chose pour les enfants qui sont exposés à différentes formes d'abus. Et puis ces choses-là se manifestent tôt dans le développement, peuvent être observées sur le plan clinique.
C'est sûr que sur le terrain, on le voit en fait que quand les enfants n'ont pas eu une réponse adéquate à leurs besoins, il y a des retards. Puis ça, on le voit même déjà à l'entrée à la maternelle. Là, ces enfants-là ont besoin d'être référés vers des professionnels parce qu'au niveau du développement, ça ne s'est pas fait là, comme ce serait souhaité. Par exemple, là, au niveau des habiletés sociales, là, jouer avec d'autres enfants, partager, s'exprimer aussi, là, ça devient extrêmement difficile pour eux autres. Et c'est des enfants là, qui sont plus anxieux, qui peuvent s'isoler ou être un petit peu plus agressifs, qui va demander là, à ce moment-là des suivis. J'ai goût de vous parler aussi des enfants qui vivent des perturbations hein, tu sais, au niveau des comportements. Là, quand on sait moins quoi faire comme enfant, on n'a pas tellement de stratégie, on est plus limité dans nos choix parce qu'on n'a pas eu cette possibilité-là d'en apprendre de nouvelles stratégies ou d'en avoir un bon registre. Quand on grandit comme enfant, ça devient de plus en plus difficile, puis il y a un écart qui se creuse. Ce que j'aurais voulu vous dire, c'est qu'on le voit là, sur le terrain, comment c'est important d'outiller les parents là, puis d'agir rapidement auprès d'eux.
Plusieurs acteurs du réseau observent que la protection de la jeunesse est de plus en plus souvent perçue et utilisée comme une porte d'entrée pour avoir accès à des services. Ils soutiennent que la loi sur la protection de la jeunesse devrait redevenir une mesure d'exception et que pour y parvenir, il faudrait investir davantage en amont et donc en prévention. Quelles sont les principales ressources existantes en prévention pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs familles?
Ce qu'il faut savoir à prime abord, c'est que plusieurs services sont offerts par la direction du programme jeunesse, mais aussi par un ensemble d'organismes familles du territoire de la capitale nationale. Ces ressources sont offertes, entre autres, en services prénataux. On va accompagner les familles, les femmes enceintes, tout au long du parcours de la grossesse, en offrant donc des services et en assurant des filets de sécurité tout au long de ce parcours-là. On offre aussi une gamme de services postnatales, c'est-à-dire qu'on va accompagner l'ensemble des familles aussi et des enfants pour assurer un bon développement et un bon accompagnement. Et à cela va s'ajouter des programmes de promotion et de prévention, tels que le programme CIP, par exemple, et des programmes d'intervention où on soutiendra les jeunes en difficulté et leurs parents, entre autres dans le soutien du développement des habiletés parentales. Certains organismes offrent aussi des conférences grand public et des organismes de la communauté permettent aux parents de pouvoir y assister en offrant gracieusement des haltes garderie pour la période de la conférence.
Parce que si je peux ajouter quelque chose à ce que dit Caroline, c'est vrai que l'utilisation des services de protection de l'enfance a augmenté. On fait de plus en plus appel à ces services-là. Et une des raisons, c'est une méconnaissance ou un manque de compréhension de comment fonctionnent les services de prévention, les services de première ligne. Donc, les éléments que souligne Caroline sont très, très importants, c'est-à-dire qu'il y a des services qui sont disponibles. C'est important pour les gens d'être au fait que c'est une première ligne de défense contre les enjeux que pourrait apporter la protection de l'enfance.
Et c'est pourquoi qu'on invite les familles à contacter les ressources existantes de première ligne, dont entre autres le 211 pour apprendre à connaître les organismes de son territoire et évidemment les services du 811 lorsqu'on souhaite adresser une demande de service à notre établissement.
Le programme Élan Famille 2.0 est en cours d'implantation au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Il s'agit d'un guide de pratique produit par la Direction de la protection de la jeunesse et la Direction du programme Jeunesse de Québec, qui fait participer tant des écoles, des centres de la petite enfance que des organismes communautaires. En tant que co-responsable du déploiement du programme Élan Famille 2.0 au CIUSSS de la Capitale-Nationale, avec Louis-Philippe Aymon de la Direction de la protection de la jeunesse, pouvez-vous nous expliquer sommairement ce qu'est le programme Élan Famille 2.0 et ses différentes composantes?
Alors, comme vous l'avez bien dit, Élan Famille est d'abord et avant tout un guide de pratique destiné aux professionnels exerçant en CLSC, en première ligne et au service de la protection de la jeunesse. Il s'applique aux familles qui ont des enfants âgés entre 0 et 12 ans et qui se retrouvent en situation de négligence. C'est un guide de pratique qui prévoit 4 volets d'intervention. Le premier s'adresse spécifiquement aux enfants pour voir à leur développement. Le deuxième volet s'adresse aux parents. On souhaite améliorer évidemment l'état psychologique et évidemment le mode de vie des parents. Le troisième volet, c'est le volet de la relation parent-enfant. On souhaite soutenir évidemment le développement des habiletés parentales de nos parents et améliorer évidemment la relation parent-enfant. Et finalement, le volet des ressources, on souhaite s'assurer que les conditions de vie qui sont en place pour répondre aux besoins de base des enfants et des familles. On vise évidemment à offrir un accompagnement qui vise à réduire les difficultés qui sont vécues par ces familles-là et on favorise la co-intervention, donc le tandem d'intervention pour assurer une meilleure continuité clinique. On souhaite miser sur les forces de nos familles et l'implication du réseau social et communautaire parce que c'est collectivement qu'on peut arriver à soutenir nos familles en difficulté et vulnérables.
Vous en êtes où dans le déploiement de ce programme-là? Puis quelles sont les retombées espérées?
On a actuellement déployé notre programme sur les territoires de Basseville, Hauteville et des Rivières, ainsi que le territoire de Limoilou. On est vraiment dans la phase la plus importante, c'est-à-dire que c'était les territoires où on croit que les efforts et les impacts seront les plus positifs. Au niveau des retombées estimées au plan de la gestion, je dirais que le premier facteur, c'est d'assurer une meilleure réponse aux besoins des familles en termes de qualité de service et de réponse aux besoins dans les meilleurs délais. On souhaite aussi avoir un impact sur la mobilisation et la rétention du personnel. On croit que des bons programmes de formation, un programme d'intervention bien structuré, des mesures de soutien à apporter auront un impact et c'est ce qu'on souhaite mesurer auprès de nos clientèles. La poursuite de la collaboration avec les partenaires du réseau est un incontournable. Collectivement, on peut faire la différence et ces collaborations-là, à l'heure actuelle, sont de bon augure et plusieurs partenaires du réseau communautaire, des milieux scolaires et des centres de petite enfance collaborent très bien avec nous. On souhaite aussi que les gestionnaires soient mieux outillés pour accompagner leurs professionnels et on espère que les résultats de la recherche aideront la direction et l'établissement à prendre des bonnes décisions pour la suite, donc qu'ils puissent nous éclairer dans une prise de décision et pour aussi assurer la pérennité de notre projet.
Pour faire suite à ce que Mme White disait plus tôt, là, il y a quand même un peu plus de 200 intervenants actuellement qui ont reçu là, la formation de base en négligence. Donc, on parle des organismes communautaires, des CPE d'école, du CLSC de la protection de la jeunesse. Et il y a plusieurs formations aussi qui sont prévues au cours des prochains mois là, pour que les intervenants puissent posséder tous les outils, les connaissances qui sont nécessaires là, pour être efficaces là, dans leur travail auprès des familles. C'est sûr qu'au niveau clinique, ce qu'on souhaite, hein, c'est rehausser la pratique clinique des intervenants. Et dès la première formation, ils reçoivent des outils qui sont basés sur la recherche puis ils apprennent à les utiliser. Il y a aussi des vidéos qui sont mises à leur disposition. Les décisions qui sont prises par la suite sont éclairées parce qu'elles sont basées sur des outils cliniques qui sont de qualité. Les intervenants de la protection de la jeunesse des CLSC ne sont pas seuls non plus à les avoir hein, parce que les formations sont données avec l'ensemble des intervenants là, donc de tous les secteurs et tout le monde sait les utiliser. Donc, pour vous donner un exemple, il y a des CPE actuellement qui utilisent des cartes conceptuelles pour bien documenter les situations qui sont vécues par les familles puis pour pouvoir mieux les supporter aussi dans leurs besoins. le guide de pratique et en famille aussi, ça permet de se rappeler toute l'importance là, du travail en équipe avec les autres partenaires. Hein. Ça, c'est un mot qu'on dit à plusieurs reprises, mais il faut travailler ensemble pour pouvoir avoir un impact positif auprès des familles. Donc, on va clarifier davantage nos rôles et le contexte de travail dans lequel on se trouve. On va se diviser aussi les services qu'il faut rendre à la famille en fonction de notre expertise et on va aussi se permettre de partager nos hypothèses. C'est sûr que nous, ce qu'on espère, c'est améliorer les conditions de vie des familles qui sont en contexte de négligence et bien sûr, faciliter le travail des intervenants là, dans le cadre de leur travail auprès de ces familles-là.
Ce programme-là, Élan 2.0, il a été conçu à partir de résultats de recherche.
Je dirais que les travaux qui supportent ce type de programme-là viennent de 3 ou 4 domaines. Premier domaine, c'est vraiment de voir que des mamans qui vivent des circonstances très difficiles pendant leur grossesse, souvent proviennent de milieux où il y a plus de vulnérabilité, vont avoir des enfants qui vont lutter avec différents aspects de leur développement. Ça peut être le développement moteur, le développement physiologique, le développement social, émotionnel, cognitif, etc. Fait que ça vient vraiment souligner le besoin et l'importance de favoriser des grossesses en santé pour les mamans. Ça vient aussi du fait que quand on constate les jeunes qui expérimentent des difficultés, soit à l'école, soit des jeunes qui se retrouvent très souvent à l'urgence à l'hôpital, soit des jeunes qui ont des enjeux sociaux, émotionnels, très souvent on voit qu'il y a des difficultés majeures, importantes qui peuvent se passer dans le contexte familial. Encore une fois, il faut baliser les commentaires parce que ce n'est pas toutes les familles, ce n'est pas tous les enfants, etc. Il y a des exceptions. Il faut être prudent dans la manière de dire les choses. Mais on voit quand même qu'il y a des éléments qui sont présents très tôt dans le développement, sur le plan du fonctionnement familial, qui peuvent vraiment être problématiques pour le développement de l'enfant. Il y a aussi qu'il y a des programmes qui ont été mis sur pied. Je dirais depuis les années 60-70, dans les milieux urbains américains où il y a d'énormes inégalités, des grandes situations de pauvreté, il y a plusieurs chercheurs qui étaient... La petite histoire autour de ça, c'est que c'était des chercheurs qui avaient vraiment une belle connexion avec les milieux d'intervention et qui étaient essentiellement très déterminés à voir si ces inégalités-là étaient incontournables, si on devait avoir des inégalités. Il y avait des gens qui disaient à l'époque, dans les années 60-70, c'est quelque chose qu'on ne peut rien faire, les inégalités, les difficultés sociales, on est pris avec ça, on ne peut rien changer. Les chercheurs avec les intervenants ont mis sur pied certains programmes qui ont eu des impacts absolument majeurs dans le développement des enfants. Et ces programmes-là impliquaient souvent d'agir tôt. Pour certains programmes, c'était pendant la grossesse et pour d'autres, ça commençait durant les premières années de vie de l'enfant. Ça impliquait souvent une collaboration entre différents milieux. Par exemple, il y avait souvent un milieu comme un CIUS qui est impliqué, des visites à domicile. Il y avait aussi des endroits comme des CPE ou des milieux de garde qui avaient des programmes éducatifs très sophistiqués pour travailler avec les enfants, pour donner un milieu positif pour les enfants. Et il y avait une personne, essentiellement ce que Boris Cyrulnik appellerait le tuteur de résilience. Il y avait une personne qui se préoccupait des enfants, une espèce d'intervenant attitré qui disait « Cette famille-là, je m'en préoccupe, je veux m'assurer qu'il y ait quelqu'un qui a un regard bienveillant sur eux d'une manière ou d'une autre. » Ces programmes-là, parfois, avaient aussi des volets qui impliquaient l'intégration communautaire, l'espèce d'appropriation ou l'empowerment, l'idée que les familles pouvaient avoir un impact sur leur propre cheminement, sur le développement de leurs enfants. Et puis, c'est des programmes qui ont vraiment fait école, je dirais, et puis qui ont inspiré beaucoup de chercheurs par la suite. La plupart de nos programmes au Québec, incluant le programme que décrivaient Caroline et Nadia tantôt, et la famille, sont des programmes qui sont inspirés de ces résultats de recherche-là. Ce qu'on a vu, c'est que les enfants qui étaient exposés à ces programmes-là, pour la plupart, avaient beaucoup moins de difficultés sur le plan social, émotionnel, cognitif. Et dans certains cas, il y a certaines études qui montraient que les différences et les inégalités sur le plan du développement des enfants pouvaient s'effacer. Maintenant, il faut faire attention parce que c'était des programmes qui ont été réalisés auprès de petites cohortes, auprès de petit nombre, puis les enjeux de l'implantation sont énormes. Les enjeux de formation auprès du personnel sont énormes. Il faut faire attention quand on dit que les programmes effacent les difficultés, mais ce sont des programmes qui sont remplis de promesses. Ça veut dire qu'on a une idée de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le développement des jeunes qui sont exposés à des situations de grande vulnérabilité. Et maintenant, le grand défi qu'on a, c'est d'implanter les conditions qui peuvent le permettre. Au Québec, une concentration de chercheurs travaille sur le développement de l'enfant depuis maintenant plusieurs années. Des chercheurs qui se regroupent dans différentes universités, l'UQAM, l'Université Laval, l'Université de Montréal, l'Université McGill. Des chercheurs qui ont vraiment, depuis plusieurs années, piloté des enquêtes importantes pour faire la démonstration que ce qui a lieu tôt dans la vie d'un enfant est important pour ce qu'il devient. Alors ça, c'est vraiment important de le dire. Ce n'est pas juste une science qui est faite à l'extérieur, c'est quelque chose qui a été réalisé par des chercheurs de pointe chez nous ici au Québec. Des enquêtes importantes qui ont été réalisées auprès de groupes d'enfants représentatifs de la population. Alors il y a des choses vraiment importantes qui sont révélées par ces études-là. Il y a aussi bon nombre de programmes de prévention qui ont été pilotés de différentes façons par différents groupes de chercheurs. Je vais en nommer deux. Le premier, c'est le programme FLOPI, qui est pour, à l'intention des enfants à la maternelle, qui est maintenant implanté d'une façon très vaste partout sur le territoire québécois, qui est piloté par France Capoineau, François Poulain et Frank Vitaro à l'UQAM et à l'Université de Montréal. Et l'intervention relationnelle, qui a été pilotée pendant de nombreuses années par Hélène Moss, par Chantal Cyr, Karine Dubois-Comtois, moi-même et d'autres chercheurs. Ce sont des stratégies qui ont été mises en place, qui ont montré des effets au niveau du développement des enfants à différents égards, et qui montre qu'il y a quand même une expertise sur le plan universitaire, puis je suis sûr que Thomas va être d'accord avec moi, il y a une expertise au Québec concernant le développement des enfants, la question de la vulnérabilité, puis la manière de faire l'interface entre ces questions-là pour habiter les programmes de prévention qu'on doit maintenant mettre au point au Québec, comme le font les équipes de Caroline et de Nadia.
Une stratégie d'intervention relationnelle assez novatrice fondée sur la vidéo rétroaction est mise en application dans plusieurs CIS et CIUS. Elle a notamment été intégrée au programme de formation Élan Famille 2.0. Cette stratégie-là semble donner de bons résultats. Pouvez-vous nous expliquer très brièvement ce qu'est cette stratégie d'intervention?
Lorsqu'on va dans des milieux qui sont très stressés, des milieux qui expérimentent une grande vulnérabilité, il y a certaines choses qu'on voit entre parents et enfants qui ont lieu très souvent, habituellement, mais qu'on ne voit pas dans ces milieux-là. Par exemple, pour la plupart des gens, si on prend un bébé puis on le prend dans ses bras, on va lui parler doucement, on va établir un contact visuel, on va exagérer les mouvements de notre visage, certains mouvements, nos sourcils, il va y avoir beaucoup d'actions de sourcils, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont faire que nos expressions faciales vont être mises en évidence. Et on fait ça en établissant le contact visuel avec l'enfant, le tenant proche, en favorisant un contact physique réconfortant pour l'enfant. Ça, c'est un exemple de quelque chose qui a lieu habituellement quand on a un bébé. Puis pour des raisons qui se comprennent quand on comprend comment la vie peut être difficile, quand on va dans des milieux aux prises avec des grandes difficultés, ces choses-là n'ont pas lieu. Et les enfants ont de la difficulté à expérimenter ces choses-là. Et on voit comment le développement des enfants peut être affecté. L'intervention relationnelle, c'est essentiellement un programme de mentorat. On travaille avec les parents pour favoriser ces échanges positifs avec les enfants. On commence avec des petits-enfants, mais ça peut se faire aussi avec des enfants plus vieux. C'est sûr que le mentorat qu'on fait auprès des parents va impliquer le fait de favoriser des conduites parentales différentes si on parle d'un enfant qui a 3 ans versus un enfant qui a 10 mois. Mais l'idée à la base, essentiellement, c'est d'offrir un appui, un soutien, un regard bienveillant envers des parents qui font tout leur possible, essentiellement, mais pour qui la vie demande ce soutien additionnel à la parentalité. La rétroaction vidéo, c'est pour montrer aux parents qu'il y a des choses qu'ils font déjà, que ces habiletés de base-là sont présentes et on veut les valoriser quand elles les manifestent. Essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est mettre en valeur les choses que les parents font déjà de bien auprès de leur enfant. En faisant ça, ce qu'on souhaite, c'est construire un peu la confiance du parent.
Les parents sont habitués à recevoir toujours des services qui sont centrés juste sur leur enfant. Pour une fois, c'est comme s'ils se faisaient offrir une intervention qui est comme complètement différente, qui sort de ce qu'ils connaissent et qui est vraiment basée là, sur un retour positif de ce qu'ils font. Ça leur donne le goût, en fait, de toujours poursuivre cette intervention-là qui se fait sur plusieurs semaines. Tu sais, concrètement, là, on voit des parents qui prennent soin davantage d'eux-mêmes, donc des mamans qui s'attachent les cheveux, on voit qu'ils vont avoir mis un chandail qu'on n'avait pas vu avant, avec un accueil différent aussi par rapport à l'intervenant. On voit aussi des parents qui vont davantage s'amuser avec les enfants. On n'est pas juste là pour parler d'une problématique X, mais on voit le parent avoir du plaisir avec son enfant, puis ça, c'est vraiment beau à voir. Puis pour les intervenants, bien, c'est aussi un vent de fraîcheur, une activité quotidienne qu'ils peuvent faire répéter aussi au cours des prochaines semaines. Ça, c'est intéressant. On s'attend toujours quand même aux préoccupations du parent, hein, parce qu'ils ont un grand niveau de stress. Mais en plus, on utilise un moyen qui est complètement différent pour faire des enseignements. Donc, les parents découvrent des nouveaux jeux à faire avec leurs enfants, là, puis dans lesquels, surtout, là, il y a une grande part de plaisir.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'activités?
Ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant. On peut le faire en très bas âge. Donc, simplement solliciter le regard de maman envers le bébé. Un petit peu plus tard, ça peut être le jeu du coucou. Hein? C'est tout quelque chose qu'on connaît bien, qui est accessible, qui développe des habiletés chez maman où on voit que bébé réagit. Un petit peu plus tard, ça peut être des jeux de maquillage aussi, ou même des jeux de table de pâte à modeler hein, qu'on a ensemble. Donc, il y a toutes sortes de façons de pouvoir travailler ces habiletés-là avec les parents à des coûts minimes.
Georges Taraboulsi et Thomas Sayas, vous avez dirigé un ouvrage collectif sur les programmes de prévention qui est intitulé « Programmes de prévention et développement de l'enfant, 50 ans d'expérimentation ». Ça a été édité au PUC auprès de l'Université du Québec en 2019. Si vous aviez à promouvoir le contenu de cet ouvrage, qu'est-ce que vous diriez?
Dans cet ouvrage, on a demandé à des auteurs qui parfois étaient eux-mêmes les concepteurs ou les évaluateurs des principaux programmes connus dans la littérature internationale, de nous présenter leurs travaux. On a, à travers une demi-douzaine de chapitres, la présentation de programmes fondamentaux, les programmes à l'origine de plein d'autres programmes de paradigmes d'intervention qui perdurent aujourd'hui. Pour en citer que quelques-uns, le programme ABC d'Ariane ou le programme Head Start, qui sont fondamentaux dans l'élaboration de qu'est-ce qui fait une aide pour des familles, quel est le contenu, puis quelle est la manière de déployer et de diffuser ce contenu auprès des familles. On leur a demandé de présenter candidement, avec le niveau de preuve qu'ils souhaitaient apporter, le contenu et les résultats d'efficacité de ces programmes-là. Ce qui nous a permis, le fait de mettre ensemble tous ces chapitres-là, d'avoir une vision transversale de l'ambition d'un chercheur universitaire et de déploiement de ces résultats-là dans le cadre souvent de politiques de mise à l'échelle, comme on dit, c'est-à-dire de diffusion plus largement sur un territoire. Ce qui est intéressant de constater, qui suscite aussi encore beaucoup de débats, parce qu'il ne faut pas prendre tout comme les concepteurs ou les évaluateurs nous le disent, c'est de voir comment les relations d'aide se sont été construites entre des intervenants professionnels puis les familles, quelles familles ont été choisies et quelle est la place aussi du dispositif expérimental là-dedans, parce que ce qui est important pour nous autres chercheurs, c'est de distinguer ce qui relève de l'intervention, ce qui relève de tout le dispositif qui est mis autour pour pouvoir l'évaluer ou le mettre en œuvre, qui est souvent excessivement lourd et complexe pour les bénéfices de l'évaluation, et qui est très bien décrit aussi dans cet ouvrage-là. On comprend qu'est-ce qui a permis d'avoir ces données-là. Donc, c'est une lecture assez transparente, qu'on appelle les preuves aujourd'hui. On voit dans quel contexte elles ont été élaborées, quel a été le dispositif autour, qu'est-ce qu'on peut dire de ces programmes-là à la lumière de ces évaluations-là. Et bien évidemment, on a évidemment un gros travail sur le contenu, de travail pour la persévérance scolaire, du travail pour la réduction du gap de 30 millions de mots, pour le soutien aux familles qui vivent dans tel ou tel contexte de vulnérabilité, comme le disait Georges. C'est un premier livre qui existe dans le domaine francophone, qui porte sur ces programmes fondés sur les données probantes. Et on a ajouté à ça une introduction et une conclusion collective qui apporte des regards peut-être un peu plus critiques et nuancés sur ce qu'on doit apprendre de ces programmes et de ce qui doit susciter un petit peu plus de précautions.
Ce que j'ajouterais à ce que Thomas a dit, ces programmes qui sont dans ce livre-là, qui sont vraiment écrits par les instigateurs de ces programmes-là. Je ne sais pas comment le dire autrement que de dire que dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, c'est des personnes très âgées qui ont écrit les chapitres, des gens qui ont initié les programmes dans les années 70. Mais il y a aussi des programmes, des descriptions qui sont vraiment très intéressantes, comme par exemple Marie-Hélène Gagné décrit le programme Triple P qui fait partie, je pense, de l'offre de services dans plusieurs régions au Québec, incluant dans la capitale nationale. Puis il y a aussi un programme concernant un phénomène qu'on n'a pas nommé, mais qui est très important, c'est la préparation à l'école. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans les premières années de vie qui aide un jeune à avoir une maternelle, puis une première année, puis une deuxième année qui vont relativement bien pour lui. Alors, il y a plusieurs choses qui sont là, qui sont éminemment pratique, fondée sur 50 ans de recherche sur le développement de l'enfant qu'on n'avait pas en 1970, qu'on n'avait pas en 1960 quand les gens ont commencé à faire ces travaux-là. L'autre chose que je dirais, c'est que les programmes nous donnent aussi une feuille de route pour la formation. Nos programmes universitaires de formation n'ont pas beaucoup changé. Moi, j'ai vraiment hâte au jour où on aura un programme de formation à l'université qui porte sur l'outillage, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais la formation des intervenants qui vont travailler dans ces programmes-là.
Vous avez abordé en décembre 2019, aux audiences de la Commission Laurent, la question des bénéfices associés aux stratégies d'intervention et de prévention soutenues et implantées rigoureusement. Quels sont ces principaux bénéfices-là?
On sait que lorsqu'on applique une stratégie de prévention de manière rigoureuse, et même lorsqu'on l'applique dans un contexte même de deuxième ligne, c'est-à-dire dans la protection de l'enfance, on voit que ces interventions peuvent avoir des effets bénéfiques autant au niveau des conduites parentales que du développement de l'enfant. Ce qui m'étonne souvent, c'est la facilité avec laquelle on va pencher du côté de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant se retrouve suivi à la protection de l'enfance, on sait que c'est un processus socio-judiciaire qui implique des avocats, qui implique des juges, qui implique tout l'appareil judiciaire qui l'accompagne, qui est extrêmement dispendieux et on n'hésite pas nécessairement à dépenser les sous de ce côté-là. Mais quand on est en prévention, on est toujours en train de se poser la question de quelle manière est-ce qu'on va faire attention à nos dépenses. Tandis que si on disait, bien, évitons à cet enfant-là de se retrouver du côté judiciaire, travaillons davantage du côté de la prévention, on va faire, à mon sens, quelque chose de très, très bien. Alors, c'est un des commentaires que je faisais à la commission Laurent, c'était que je pense qu'on bénéficierait d'avoir des services de prévention plus rigoureux, où les gens sont mieux formés, où les conditions de travail des intervenants sont plus soutenues, de sorte qu'on puisse voir des bénéfices et éviter la protection de l'enfance. Je pense que c'est un des gros objectifs de notre génération, surtout dans le contexte où on voit l'augmentation continue des taux de signalement sur le plan provincial. Je pense qu'en 2020, dans l'époque pré-pandémique, on avait 118 000 signalements au Québec. C'est à peu près 300, quelque chose comme 325 signalements par jour au Québec. C'est incroyable comme signalement. Je pense qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire que de signaler des jeunes à la DPJ.
À la commission, Laurent, vous avez parlé des conditions de réussite de ces programmes-là, la qualité de ces programmes-là qui est importante. La formation donnée aux intervenants, ça, vous avez déjà laissé quelques mots là-dessus en début d'entrevue. Et des conditions de travail, pouvez-vous élaborer un peu sur ça?
Il y a trois ou quatre grands paramètres des conditions de travail qui, sans dire que ça fait défaut, sont difficiles à rencontrer dans le contexte de nos services sociaux actuels. Le premier concerne la charge de cas. Présumons que nos intervenants ont suffisamment de formation. Une des choses qu'on va voir, c'est qu'ils travaillent avec beaucoup de familles. Beaucoup de familles demandent des services. Et quand on regarde la recherche efficace auprès de ces familles-là, on voit que les charges de cas sont parfois la moitié dans la recherche de ce qu'ils sont dans la pratique. Si on a trop de familles auprès de qui on doit intervenir, ça va être difficile d'être efficace. Souvent, les intervenants vont travailler relativement seuls. Je pense que tout le monde fait du mieux qu'il peut dans ce contexte-là. Mais très souvent, c'est quelque chose qui est problématique. Alors, tout ce qui concerne la prise de décision concernant les familles, on a vraiment besoin d'être appuyé, d'être encadré, autant au niveau de la première ligne que de la deuxième ligne, parce que ce sont des familles qui vivent des grands enjeux et c'est très chargé de demander à une personne de prendre des décisions relativement seule dans les différents contextes. Cet accompagnement-là fait partie des programmes à données probantes qu'on voit dans le contexte et de la première et de la deuxième ligne. Il doit y avoir une diversité dans le travail des intervenants, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils soient pleinement disponibles pour les familles avec lesquelles ils travaillent, mais cette espèce d'idée de formation continue, d'augmenter ses compétences, d'asseoir son expertise, de se sentir de plus en plus compétent dans son contexte. Tous les intervenants nous disent combien c'est important pour eux de sentir qu'ils acquièrent des compétences qu'ils pourront amener dans leur communauté de pratique et qu'ils pourront appliquer par la suite avec les familles avec lesquelles ils travaillent. Il y a vraiment un côté important à tout ce qui concerne les conditions de travail. Si on a des enjeux actuellement au niveau de l'efficacité de nos programmes, c'est parfois juste parce qu'il y a trop d'ouvrages. Les intervenants vont être surchargés.
Pour le bénéfice des auditeurs, quand on parle de première ligne, deuxième ligne, on fait référence à quoi?
Quand on parle de première ligne, on parle essentiellement de tout ce qui se fait dans un contexte de prévention. Et quand on parle de deuxième ligne, c'est qu'il y a déjà une sorte de, entre guillemets, une étiquette ou un diagnostic qui a été posé qui nécessite une intervention plus formelle.
Monsieur Sayas, vous travaillez ou avez travaillé sur des projets de prévention importants en France. Quel lien on peut faire entre ce qui se fait en France et ce qui se fait ici dans le domaine?
Alors, je continue de travailler, en effet, très activement, et en France et au Québec. On a des points communs, on a désormais des différences. Les points communs, c'est beaucoup sur la manière de déployer des services. En France comme au Québec, on a des politiques publiques gouvernementales fondée sur l'accès universel, gratuit, intégré dans le système public, qui peut permettre de diffuser des actions de prévention. Ça, c'est suffisamment rare à l'échelle mondiale pour être pointé. Il y a peu de pays qui ont des politiques aussi proactives de prévention que le Québec ou la France. Donc, on a des dispositifs très efficaces, potentiellement, sur le papier. L'écueil terrible et la mauvaise décision serait de dire si on n'obtient pas les résultats qu'on souhaite, il faut changer le système. Non, le système est très correct. Il faut absolument maintenir ce niveau de caractère gouvernemental de nos actions parce que c'est éthiquement très responsable de la part de nos gouvernements. Donc, dans la manière de déployer, ça repose sur un tissu public et politique. Sur le contenu de ce qui est donné aux familles ou de ce qui fonde l'intervention entre les professionnels et la famille, on retrouve aussi des modèles théoriques sur lesquels on va s'accorder. Le premier d'entre eux étant celui de la théorie de l'attachement, qui est une théorie du développement de l'enfant et des relations entre les personnes qui met l'accent sur le lien, sur la sécurité des individus et qui permet à la fois de parler des bébés, Mais ça permet aussi de parler des parents et de leur propre attachement. Les parents ont besoin d'être sécurisés dans leur rôle de parents par des gens qui vont les aider à sécuriser. Et ça permet aussi de parler des professionnels. Les professionnels sont des personnes qui exercent dans des conditions pas toujours faciles, qui ont elles-mêmes besoin d'être sécurisées pour pouvoir faire leur métier correctement. Donc, il y a cette espèce de chaîne de sécurité qui fonde les interventions au Québec comme en France et puis qui peut constituer un point commun de nos interventions. Ce qui devient un peu plus différent aujourd'hui, c'est le rapport qu'on a, comme je disais précédemment, avec la notion de vulnérabilité. Au Québec, on a une approche où on se fonde beaucoup sur les études scientifiques qui montrent qu'on voit plus de problématiques auprès de telle ou telle ou telle population. Ces études-là sont des études qui appuient leur point souvent sur des aspects corrélationnels, associatifs. Parfois, on comprend bien qu'il n'y a pas de causalité impliquée. Les mères jeunes sont plus déprimées. On comprend bien que ce n'est pas le fait d'être jeune qui déprime les gens. On comprend bien que c'est une association. Parfois, c'est plus ténu. Les familles plus précaires socio-économiquement ont plus de situations de maltraitance. Est-ce que c'est le fait d'être pauvre ou est-ce que c'est le fait de vivre dans des conditions qui à la fois rendent pauvre et à la fois créent les conditions précipitantes de la maltraitance. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas assez mis l'accent au Québec sur la dissociation entre la corrélation et la causalité, ce qui pourrait faire penser que c'est plus important d'agir auprès de familles qui sont notamment précaires parce que leur précarité risque de poser des problèmes à leurs enfants. Ce problème qui génère de la stigmatisation, de l'étiquetage indu et qui crée plein de personnes qui échappent au système alors qu'elles en ont besoin ou qui rentrent dans le système alors qu'elles n'en ont pas besoin, est un problème fondamental pour moi, éthique, contre lequel moi j'ai fondé beaucoup de mes espoirs et sur lequel j'essaie de travailler, notamment en essayant d'aller vers de l'universel au maximum de nos ambitions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut rejoindre toute la population des familles qui vont attendre ou qui viennent d'accueillir un bébé et proposer à toutes les familles d'évaluer leurs besoins spécifiques de manière à pouvoir leur apporter des actions adaptées. Parce que parfois, on peut être très riche et bien entouré, mais mal dans sa peau et déprimé et on ne va pas avoir un bon départ comme parent. Parfois, on peut vivre avec moins de ressources que d'autres et on va être un excellent parent. Il n'y a pas de raison d'avoir les services qui vous tombent dessus. Et donc, le principe de passer d'une prévention fondée sur des critères de vulnérabilité à une prévention fondée sur les besoins de chaque famille me paraît essentielle aujourd'hui. Ça peut paraître coûteux, mais quand on teste ça, comme moi j'ai pu le tester dans certains projets français, on se rend compte qu'on a une conséquence très favorable sur d'autres affaires. Les familles créent du lien plus facilement. Elles ouvrent la porte plus facilement. Les professionnels vont moins se casser le nez à faire des déplacements pour rien. Il y a plein de retours économiques qui viennent compenser l'investissement de départ et qui permettent d'avoir une approche plus éthique et probablement plus efficace à partir du moment où on regarde l'ensemble de la population. Ça, c'est quelque chose que je pousse énormément en France parce que le terrain s'y prête assez bien aujourd'hui, en 2021. Au Québec, j'ai l'impression que le renouvellement des actions de prévention fondées sur les facteurs de risque est encore à l'ordre du jour, ce qui me mobilise pour faire d'autres choses, mais me déprime parfois un petit peu aussi. Et c'est là-dessus, je trouve qu'on a la plus grosse différence aujourd'hui. Est-ce qu'on veut aller sur de l'universel, comme on appelle de l'universel proportionné, ou sur de la prévention ciblée? Je pense que c'est un débat social à avoir.
Mais je dois dire que depuis les dernières années, mon grand défi, puis ça, le défi que le manteau que j'ai porté, c'est un manteau qui dit on a assez d'informations pour être efficace, sans dire qu'on sait tout. Puis je ne voudrais certainement pas arriver avec une certaine arrogance. Il y a des fois des chercheurs qui arrivent avec une arrogance comme si on savait tout. Ce n'est vraiment pas le cas, je vous assure. Mais il y a quand même plus d'informations qu'on a, il y a plus de connaissances qu'on a maintenant. Puis ce que je souhaite, c'est que ça percole davantage dans le réseau, autant au niveau de la formation du personnel qu'au niveau de l'organisation des services, autant au niveau de la prise de décision de nos décideurs. Je suis toujours très étonné de la manière dont parfois certains de nos décideurs vont prendre certaines décisions concernant des programmes, des façons de faire. Je pense qu'il y a assez d'informations maintenant pour utiliser le corpus de données, le corpus de la recherche. Il y a des gens qu'on devrait consulter d'une façon plus régulière, d'une façon plus systématique avant de prendre des grandes décisions sur l'organisation de nos services en santé, services sociaux, en éducation. Dans le domaine de la santé, ça reste quelque chose qui se fait plus souvent. Je pense qu'en éducation, dans les services sociaux, ça se fait moins souvent. Alors, je pense que c'est un des défis que j'aimerais relever au cours des prochaines années.
Je vais vous amener tout doucement vers la commission Laurent et vers la fin de l'entrevue. Avez-vous des espoirs particuliers concernant les retombées de ces travaux-là de la commission Laurent?
L'ensemble des commentaires qui ont été apportés dans l'entrevue sont tout à fait pertinents. Des programmes mieux structurés, des mesures de soutien mieux adaptées aux besoins des professionnels et des gestionnaires. Mais avant tout, le renforcement des services de proximité, pour moi, demeure un atout vraiment très important pour la suite des choses. Donc, une première ligne forte en prévention, en promotion, en soutien auprès des jeunes et des familles, je pense que c'est avec ça aussi qu'on va réussir à faire la différence.
Ce que je souhaiterais qu'il en ressorte, c'est un appui fort là, pour un projet comme notre guide de pratique Élan Famille là, qui passe par davantage de services qui sont offerts directement aux enfants, là, qui va viser leur développement là, global. Que les enfants qui sont en contexte de négligence aussi puissent avoir accès davantage à des places dans des services de garde de qualité. Pour compléter, Caroline, aussi, là, tu sais, que les intervenants puissent avoir davantage de temps de qualité avec les familles qu'elles accompagnent. Là. Ce serait une belle avancée, en fait, pour l'ensemble des intervenants qui travaillent auprès des familles.
Moi, j'aimerais que pas tant les conclusions de la commission, dont on sait qu'elle a tout entendu, nous apportent quelque chose, mais que le gouvernement sache s'en saisir et prenne ses responsabilités à cet égard.
Il y a beaucoup d'informations qui ont été présentées, puis c'est vraiment, il y a comme un faisceau sur la question du développement des enfants, des services en première, deuxième ligne, de la protection de l'enfance, etc. Il y a un volet politique à cette chose-là, puis j'espère que les décisions vont être pas uniquement des réponses à court terme, mais qu'il y aura des changements plus profonds qui vont être effectués. Une des choses que j'aimerais beaucoup voir, c'est qu'il y ait une formation qui reconnaisse que le travail auprès des familles et des enfants qui sont dans des situations de vulnérabilité nécessite des compétences importantes et un suivi pour les intervenants important, puis que ça ne repose pas uniquement sur les établissements, que ça soit communautaire, que ça implique les universités, les cégeps, les établissements, qu'on ne soit pas en train de simplifier la chose en disant les établissements ont la responsabilité de faire la formation de leur personnel, que ça soit quelque chose qui appartiennent à l'ensemble de la société.
C'était une très belle rencontre. Merci.
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 Au
revoir.
Vous écoutiez Défi, le balado du CRUJEF.